deuxième journée de cette conférence de consensus. Le programme de cette matinée est chargé. Nous avons donc deux interventions avant la pause, deux interventions après la pause, avec aujourd'hui une intervention un peu particulière par rapport à l'ensemble des interventions, puisqu'après la pause, nous aurons le témoignage d'un vice-président étudiant qui viendra donc interpeller la recherche sur l'enseignement supérieur. Donc une communication un petit peu différente. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et il est possible que certaines personnes soient arrivées aujourd'hui, donc, qu'après chaque intervention, donc, il y a un temps de questions assez long. Nous commençons d'abord par le jury, et ensuite donc, un micro passe dans la salle pour que vous puissiez poser des questions. Mais par ailleurs, il existe aussi un document collaboratif, et vous avez l'adresse de ce document collaboratif dans la pochette qui vous a été remise. L'expérience a montré hier que ce document, finalement, fonctionnait très, très bien. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup à la fois des témoignages et des questions hein, qui remontaient par ce document. Et donc, à chaque fin d'intervention, nous essayons d'en tirer un certain nombre d'éléments pour les restituer donc, à la salle et aux intervenants. Voilà. Donc, sans plus attendre, commençons avec l'intervention de Marianne Freinet. Marianne Freinet est professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, titulaire donc de la chaire UNESCO de pédagogie universitaire.
Voilà, alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce matin début de matinée. Je voudrais également remercier évidemment les organisateurs de ces deux jours parce que je pense que le sujet sur lequel on travaille pendant ces deux jours est particulièrement important. Et donc je vais essayer à travers la présentation que je vais faire de vous donner un aperçu des questions liées à cette dimension évidemment de la réussite et de la persévérance à l'université, en particulier liées en ciblant sur les dimensions motivationnelles d'une part et les dimensions d'intégration sociale et académique. Alors, dans la commande qui m'avait été faite par les organisateurs, et je pense que c'est la même pour les différents intervenants, la question qui était posée, c'était vraiment de pouvoir d'une part faire un état des lieux, des savoirs et des savoirs acquis que l'on a en matière de recherche dans le domaine, de soulever les zones d'ombre qui restent à explorer et enfin de revenir avec des questions sur les pistes de recherche et j'y ajouterai les différentes dimensions sur les préoccupations méthodologiques qui sont issues de l'analyse de la littérature que j'ai pu faire et que je vous présenterai. Alors, on l'a vu hier, la question de la réussite à l'université est un processus qui préoccupe particulièrement donc, les étudiants, les acteurs universitaires, mais aussi bien sûr les familles. Et j'ajouterais que la dimension aussi de la persévérance qui est directement liée à cette question de la réussite, soit en amont, soit en aval de cette question de la réussite, est également particulièrement importante. Et dans le cadre d'une année d'études, on peut dire qu'il y a différents moments qui peuvent jouer sur ces et qui peuvent en fait interpeller ou provoquer à certains moments de l'abandon, voire face à un échec, les étudiants peuvent se poser la question d'abandonner ou de persévérer. C'est évidemment toute la question de la transition qui est un moment clé entre le secondaire ou la fin du bac, à l'issue du baccalauréat, l'entrée en licence, et les premières semaines, les premières évaluations, et puis à un moment, la partie évidemment des examens et des conséquences qu'on peut tirer de ces examens. Et donc ces différents moments en fait amènent à se poser une série de questions sur les variables qu'on peut prendre en compte et de savoir également si ces variables sont les mêmes quand on s'intéresse au processus de persévérance ou de réussite. Et pour les institutions, évidemment, et les enseignants, la question peut alors être de se dire mais quels sont les dispositifs de soutien qui sont effectivement proposés, leur efficacité. Alors, cette dernière question, je ne l'aborderai évidemment pas en détail, puisque l'intervention qui me suivra, celle de Cathy Perret, va vraiment se focaliser sur cette dimension-là. Alors, que sait-on aujourd'hui de ces questions sur la réussite dans l'enseignement supérieur et sur la persévérance, en prenant évidemment l'angle que je vous ai annoncé au début? D'une part, on peut dire qu'il y a évidemment énormément de travaux qui ont été faits et que ça ne date pas d'hier. On l'a vu hier à travers des statistiques ou des extraits qu'a présenté Marc Romainville. Cette préoccupation par rapport à la question de la réussite dans l'université, elle date depuis longtemps, mais les travaux qui ont porté sur ces questions-là également. Alors, en partant d'un article de synthèse fait par Tinto en 2006, je vais vous refaire un rapide survol un petit peu de la manière dont on a abordé ces questions-là de persévérance et de réussite. Alors, ce que lui met en évidence, c'est que dans les années 60, en fait, on s'est surtout intéressé à travailler les caractéristiques des étudiants, leurs habiletés, leurs motivations, en se posant la question essentiellement, mais qu'est-ce qui fait que des étudiants ont plus tendance à abandonner que d'autres, en le ciblant sur les questions de niveau, de parcours antérieur, de capacité, de motivation. Et il qualifie cette approche un peu de celle qui va essayer de mettre en cause la victime. Ça veut dire qu'on se centre essentiellement sur l'étudiant sans vraiment se préoccuper de ce qui, dans le système universitaire, dans l'offre de formation des universités, a pu ou non aussi interférer avec cette question de la persévérance et de la réussite. À partir des années 70, toujours, ou 70, selon Tinto, les éléments qui ont été mis en évidence, c'est qu'on a vraiment cherché à comprendre l'interaction qu'il pouvait y avoir entre les caractéristiques des étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur et ce qu'offre le système d'enseignement supérieur, donc les caractéristiques de l'environnement institutionnel. Et c'est là également, pendant cette période-là, qu'on a vu apparaître deux grands modèles qui ont vraiment marqué les travaux sur la question de la persévérance et de la réussite. C'est les travaux de Bean, d'une part, et de Tinto, dont je vais parler un petit peu plus en détail. Et ce qui est intéressant à travers ces travaux, c'est qu'en fait, c'était une première tentative d'essayer d'expliquer théoriquement comment on peut passer, quel est le processus qui amène en fait à cette persévérance. Et ils vont mettre en évidence l'importance en fait de l'offre institutionnelle pour les étudiants, et donc dans la manière dont les étudiants vont participer aux différents systèmes académiques et sociaux, c'est ce qui va en fait déterminer leur niveau d'intégration sociale et académique. Et je vous présente sommairement le modèle de Tinto, sans rentrer évidemment dans le détail et sa complexité, mais si vous pouvez le lire de gauche à droite, en fait l'explication qui est faite par Tinto du processus de persévérance, c'est de dire, ben voilà, tout étudiant arrive avec un ensemble de caractéristiques d'entrée, qui viennent évidemment de son bagage familial, de ses aptitudes, mais aussi de son passé scolaire. Et ces dimensions, ces caractéristiques d'entrée vont en fait influencer la manière dont il va percevoir les buts qu'il poursuit, l'engagement vis-à-vis de son but particulier qui est de suivre des études X ou Y, et également l'engagement qu'il va avoir vis-à-vis de son institution. C'est donc bien ces caractéristiques d'entrée qui vont influencer la perception des buts et de l'engagement, mais également les engagements externes qu'il a dans son milieu d'appartenance ou dans ses groupes d'appartenance. Et c'est en fait ces buts et ces engagements qui vont en fait l'amener à rentrer dans les systèmes académiques et sociaux offerts évidemment par l'institution. Et quand on parle de système académique, c'est tout ce qui est évidemment relié au fait de suivre des cours, d'entrer dans le système, d'avoir une série de règles dans le cadre de son programme d'études. Et le système social, c'est aussi, bien sûr, ce qui se passe pendant la classe, les interactions qu'il peut avoir avec les autres étudiants, avec l'enseignant, mais aussi toutes les interactions sociales que l'étudiant peut avoir dans le campus universitaire à travers son engagement dans différentes associations d'étudiants, dans différents groupes particuliers. Et c'est la manière dont il va vivre ses expériences institutionnelles à l'intersection entre le système académique et sociaux qui va déterminer en fait son intégration académique et son intégration sociale. Et selon Tinto, c'est vraiment cette intégration académique et sociale qui va en fait déterminer en partie la qualité de l'engagement académique qui va être un des moteurs de l'apprentissage de l'étudiant. Et donc, à la fois, cette intégration académique et sociale joue sur la qualité de l'apprentissage, mais elle joue aussi, en retour, sur la manière dont l'étudiant va redéterminer ses buts en fonction de ses expériences vécues et aussi continuer à se sentir engagé envers son but de réussir sa formation et engagé aussi vis-à-vis de l'institution. Et donc, cette notion d'engagement, d'appartenance à l'institution est un élément clé dans la théorie de Tinto et c'est ce qui, selon lui, détermine le processus de persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces travaux? Les travaux qui ont été menés à partir de ce modèle de Tinto, ont vraiment pointé cette dimension d'engagement dans les études, d'engagement dans l'institution et des éléments d'intégration académique et sociale. C'est une veine de recherche qui a été très importante et très féconde et qui a eu aussi comme effet de permettre à des institutions de développer toute une série de pratiques de soutien, vraiment centrées sur la question de la transition de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur et de s'intéresser aux premières expériences académiques pour essayer justement de construire cette intégration académique et sociale. Alors, tout comme le signalait Marc Romainville hier matin, les travaux, notamment deux ouvrages de Pascarella et Terenzini en 93, 1993 et 2005, ont mis en évidence, ont fait un peu le bilan de toute une série d'études qui ont été faites sur le sujet, et c'est vraiment des synthèses tout à fait remarquables. Alors, quelles sont, par contre, les limites, telles qu'elles sont pointées par Tinto lui-même en 2006, de ses travaux, de ses premiers travaux dans les années 80 et 90, mais c'est qu'en fait, c'est essentiellement des études qui ont été faites à large échelle, dans des universités qui, au niveau des États-Unis notamment, étaient des universités qui majoritairement avaient un public étudiant qui vivait sur le campus universitaire, et qui se focalisait sur les étudiants qui constituaient la majorité des étudiants et ne s'est pas beaucoup intéressé à la diversité culturelle des étudiants et à la diversité économique des étudiants. Ils se sont aussi peu intéressés aux différences entre programmes dans cette construction de l'intégration sociale et académique. Et une des limites également, c'est qu'en fait, ces pratiques pédagogiques dont je parlais, qui visaient à soutenir la persévérance et la réussite, ont surtout été en fait considérées comme l'affaire des professionnels, de spécialistes qui vont mettre en place, à côté du programme d'études de l'étudiant, une série d'activités complémentaires pour soutenir l'intégration académique et sociale. Et que les enseignants eux-mêmes étaient peu impliqués dans ce programme et que ça se faisait vraiment comme des activités un petit peu à côté. Alors, décidément, à la suite de ça, Tinto dit que, au-delà des années 80 et 90, quelle a été l'évolution de ces travaux? Progressivement, on est sorti un peu de ces limites et on a cherché à comprendre les expériences étudiants qui viennent de backgrounds différents et donc qui ont des dimensions sociales, culturelles, économiques, etc. différentes, et on a cherché à voir en quoi le modèle tel qu'il était présenté peut s'adapter et permettre de comprendre aussi l'expérience étudiante d'étudiants venant d'autres milieux culturels, d'autres milieux sociaux, d'étudiants aussi qui ne sont pas nécessairement des étudiants à temps plein, mais des étudiants à temps partiel, et qui donc ne viennent pas dans l'université pour y vivre, pour avoir l'expérience du campus étudiant, mais qui font quelque part la navette entre leur domicile et les études. Et la question, en fait, qui au départ n'était traitée par Tinto comme étant un petit peu connexe, en disant mais clairement un étudiant qui vient à l'université quitte quelque part ses attaches par rapport à ses milieux d'appartenance, en fait, cette question-là est revenue sur le tapis en disant qu'il est quand même intéressant de comprendre en fait le maintien des étudiants dans leur groupe d'appartenance, et il parle de communauté de référence. Un autre élément dans l'évolution de ces travaux dans les années 2000, c'est la compréhension évidemment du processus de persévérance, justement en le déclinant selon les types d'institutions et selon les types de contextes. Et un des éléments qui a été particulièrement mis en évidence, c'est de dire, quand on parle d'intégration académique et sociale, c'est peut-être moins dans toutes les activités périphériques à l'activité liée aux activités de classe qu'il faut regarder, mais quand on est face à des étudiants qui ont des caractéristiques spécifiques, qui viennent à temps partiel, etc., la dimension en fait de ce qui se passe dans la situation de classe, dans la situation dans les salles de séances, de travaux pratiques, des séminaires, etc., devient en fait la situation de référence où se construit cette intégration académique et sociale. Et donc, c'est là où l'étudiant, en fait, rencontre les autres étudiants et rencontre les enseignants. Et ça devient le microcosme ou le milieu de vie privilégié des étudiants. Et donc, intervenir uniquement sur ce qui est périphérique à la salle de classe fait en sorte qu'on ne touche pas nécessairement l'ensemble des étudiants. Un autre apport ou évolution de ces travaux, c'est qu'en fait, alors que l'approche de Tinto a été dominante pendant un certain nombre d'années, en fait, progressivement, évidemment, d'autres variables se sont adjointes à cette approche de Tinto qui centrait vraiment sur la dimension intégration académique et sociale en particulier, en interrogeant d'autres modèles pour étudier la question de la persévérance et de la réussite, notamment des modèles avec des variables de type sociologique, psychologique ou économique. Et justement, en interrogeant la plus-value de l'un ou l'autre de ces modèles. Et je vais vous présenter un travail que nous avons réalisé à Louvain-la-Neuve et qui essaye justement d'intégrer ces questions-là. Ce qu'on peut dire à l'issue de ces travaux-là, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les travaux qui ont été menés pendant cette veine de travaux et quelles que soient les nuances qui ont pu être faites, la dimension clairement de l'engagement de l'étudiant est une dimension qui est clé et qui est particulièrement critique au début de la première année. Cette veine recherche se continue et se poursuit et je vais prendre deux ou trois exemples pour montrer la fécondité encore de ces travaux-là. Ben, c'est l'enquête nationale qui est faite aux États-Unis sur l'engagement des étudiants, qui est une vaste enquête qui est menée pratiquement tous les ans dans différentes universités. Je pense que les universités canadiennes également sont impliquées dans cette enquête et qui, en fait, sert un petit peu de... je ne sais pas si on peut dire de tableau de bord, mais en tout cas d'indicateurs pour des institutions pour voir dans quelle mesure les étudiants s'engagent effectivement, continuent à s'engager dans leurs études, comme étant aussi une manière de prévenir les risques d'abandon et de pouvoir comprendre si l'institution et les étudiants qui sont inscrits dans cette institution sont à risque ou non d'abandonner. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la suite de ces travaux, c'est qu'en fait, ces travaux aussi se sont déclinés non seulement pour comprendre localement les variables qui interviennent dans le processus de persévérance, mais se sont aussi déclinés justement pour proposer toute une série d'interventions, pour analyser des interventions, mais aussi pour réfléchir à la gestion des systèmes d'enseignement supérieur. Je me dis que par rapport à la demande du ministère de l'enseignement supérieur, c'est un élément peut-être intéressant à pointer. Alors, je vais passer celle-là. Je vais vous présenter donc deux déclinaisons de ce modèle et de cette veine de travaux qui ont été développés ici en Angleterre. Donc Lee Stomach est quelqu'un qui a fait donc un rapport sur un programme qui a été mis en place en Angleterre pour soutenir la persévérance et la réussite dans l'enseignement supérieur et qui a étudié toute une série de pratiques qui ont été mises en place dans les institutions pour soutenir la persévérance et qui prend comme point de départ justement cette approche quelque part de Tinto, mais évidemment en la localisant, en montrant en fait que l'engagement et le sentiment d'appartenance est donc un élément clé pour la persévérance et la réussite, et que cet engagement, cette persévérance dépend en fait des trois sphères dans lesquelles l'étudiant évolue, la sphère académique, sa sphère sociale, mais aussi les services auxquels il peut faire appel à l'intérieur de l'institution. Et si la sphère académique est particulièrement importante, c'est pas par hasard que la taille de la sphère académique est plus large que les autres, c'est qu'elle met en évidence que justement cette dimension-là est le lieu même où se construit aussi cet engagement par rapport aux études. Et c'est l'interaction, le fait que l'étudiant participe quelque part à ces trois sphères, c'est ce qui lui permet de construire quelque part sa capacité à persévérer et à réussir, et qui dépend également de la capacité de l'équipe enseignante, de toutes les personnes qui offrent des cours, des séminaires, etc. aux étudiants. Et donc la capacité de l'équipe, de staff, mais aussi des professionnels, de tenir compte de ces trois dimensions est un élément important. Et le dernier cercle qu'on voit qui soutient tous ces éléments-là, c'est évidemment la manière dont on coordonne et qu'on gère au niveau de l'institution ces différentes questions. Donc on voit là qu'on est dans un modèle qui est issu de ces travaux-là, mais qui repointe l'importance pour étudier cette question de la persévérance, pas simplement de se centrer sur la question de l'étudiant, mais aussi de l'ensemble du personnel enseignant et administratif, et aussi de la manière dont l'institution gère. Alors, je vous présente une dernière déclinaison de ce modèle qui a été faite par exemple dans une thèse de doctorat en Angleterre et qui, partant du modèle de Tinto et de la réflexion sur qu'est-ce que l'institution peut faire pour soutenir la persévérance et la réussite, a essayé de développer un modèle de management pour gérer et pour améliorer la persévérance de l'étudiant et sa performance. Alors, Vous ne pourrez évidemment pas lire tout ce qui est mis à l'intérieur de ces éléments-là. J'ai mis la référence de cette thèse, elle est accessible en ligne à la fin de cette présentation. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici, en fait, on regarde la question du point de vue de l'institution. Qu'est-ce que l'institution peut mettre en place comme système de collecte de données et de suivi de données en le regardant pour comprendre la persévérance des étudiants ou le maintien des étudiants dans leur programme d'études. On peut le regarder du point de vue des données que l'on a de la part de l'étudiant, hein, au haut du triangle, en s'interrogeant sur le type de public qui arrive, sur l'évolution du public, sur son passé antérieur, etc. C'est un peu ce que fait l'Observatoire de la vie étudiante, je pense, ici en France. Mais on peut aussi s'interroger sur, et on l'a vu hier après-midi, notamment sur les pratiques enseignantes, sur ce que font les enseignants dans les activités pédagogiques qu'ils proposent. Et donc, on peut s'intéresser aux pratiques en matière d'enseignement et d'apprentissage, aux pratiques évaluatives, hein, on l'a pointé hier, ou encore on peut prendre toute une série d'informations et au niveau de l'institution, notamment dans des processus de gestion de la qualité ou l'approche programme dont on a aussi parlé hier. Et donc il y a comme ça différentes portes d'entrée pour une institution si elle veut s'attaquer, entre guillemets, au problème de l'abandon ou de la persévérance étudiant. Et donc c'est une illustration comme une autre, mais c'est pour montrer en quoi les travaux qui ont été menés ont permis de décliner toute une série d'évolutions. Alors, jusque-là, je me suis fort centrée sur les travaux de Tinto et toutes les personnes qui ont suivi. C'est évidemment pas le seul qui fait des travaux dans ce domaine-là, mais l'approche était essentiellement sur l'interaction entre l'environnement et l'étudiant. Je vais maintenant avancer en s'intéressant sur les évolutions récentes aussi, qui datent fin des années 90, début des années 2000, et qui ont essayé de dire, mais attention, les approches éducationnelles ne sont probablement pas suffisantes, et vous en conviendrez, pour expliquer évidemment le processus de persévérance. Et dans les années 90 et 2000, évidemment, toute la dimension motivationnelle a pris beaucoup d'importance pour étudier le lien entre la motivation et la réussite, la motivation, l'engagement et la réussite. Si l'engagement est un facteur central, mais qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager? C'est évidemment les questions et les dimensions motivationnelles. Et donc, Robbins a fait en 2004 une très importante méta-analyse des travaux qui portaient sur cette question de la persévérance et de la réussite, et a essayé d'étudier en fait la manière dont certaines variables motivationnelles, quand elles s'ajoutent aux variables de type plus éducationnel prises par les modèles de Tinto, en quoi elles apportaient une contribution supplémentaire à l'explication de la performance et de la réussite. Et dans les variables qu'il pointe comme étant particulièrement intéressantes à étudier, c'est la question des buts que les étudiants poursuivent, des motifs pour lesquels ils entrent et ils font des études. Il y a d'ailleurs des travaux intéressants en France qui ont été faits sur ces questions-là, sur les motifs d'entrée dans les formations, la perception qu'on a de la valeur de ces études, de son programme, des activités qui sont proposées, son sentiment d'efficacité personnelle, est-ce qu'on a une espérance de réussir ou non ce programme, le concept de soi, ses habiletés académiques, on a vu hier également l'importance des stratégies d'études à travers les présentations qui ont été faites, et la dimension d'engagement. Alors, ces variables ou ces approches motivationnelles, je vais juste vous présenter deux modèles qui sont particulièrement intéressants sur ces questions-là. Le modèle de l'expectancy value, mais sans le développer, qui a été développé par Jackie Nichols au Michigan, et qui s'intéresse à la façon dont la valeur que j'accorde à la tâche, à mon programme d'études, et mon sentiment d'efficacité personnelle, les attentes que j'ai par rapport à ma réussite vont effectivement me permettre de m'engager dans le cadre de mes études. Je ne vais évidemment pas développer le modèle ici. De même, des modèles de Price et Richardson mettent en évidence qu'il ne suffit pas de comprendre la perception de l'environnement social ou des pratiques éducatives par les étudiants, mais que ça passe, que c'est filtré en fait par les croyances motivationnelles qui vont se construire à partir de là, évidemment toutes les stratégies d'études qui sont mises en œuvre et le comportement, évidemment l'engagement comportemental. On ne pourra évidemment pas expliquer la réussite académique si on ne s'intéresse pas aussi au travail effectif qui est mis en place par les étudiants dans le cadre de leurs études. Je vais passer le suivant. Alors, Voilà. Cette méta-analyse de Robbins, elle est intéressante pour deux aspects. C'est qu'elle a essayé, alors, en analysant l'ensemble de ces études qui ont été faites, qui ont à la fois pris des dimensions inspirées quelque part des modèles de Tinto d'une part et des approches motivationnelles, ils ont essayé de pointer toute une série de variables qu'ils ont qualifiées de variables psychosociales et de stratégies d'études, en essayant de voir qu'est-ce qu'elles apportaient en plus à l'explication de la persévérance et de la réussite au-delà de ce avec quoi les étudiants arrivent, c'est-à-dire leur parcours antérieur, leur niveau d'études antérieur, leur réussite antérieure et leur niveau socio-économique aussi, le milieu d'origine. Et ce qu'ils ont pointé, c'est qu'en fait, effectivement, quand on prend en compte ces variables psychosociales et stratégies d'études, on peut expliquer plus d'éléments de la persévérance ou de la réussite que si on ne prend pas en compte ces dimensions-là. Alors, pour sans vouloir évidemment rentrer dans un jargon technique et statistique, je voudrais juste vous présenter le modèle, deux des tableaux qu'ils ont repris dans leurs études. Simplement, je ne pointe que ce que j'ai mis entouré en rouge. Ils ont en fait testé différents modèles de régression pour prédire effectivement ici la persévérance des étudiants. Quand on ne prend en compte que le niveau socio-économique et le niveau d'études antérieures, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut expliquer 9% de la variance pour prédire la persévérance. On a vu d'ailleurs cette notion de... l'explication de la variance hier par Jean-François Desbiens. Si on prend maintenant un modèle où on ne prend en compte que les variables psychosociales seules pour expliquer la persévérance, on en explique 13%. Mais quand on prend et les variables d'entrée et ces variables psychosociales, eh bien, en fait, on ajoute à l'explication de la variance 8%. Donc, ça veut dire qu'au total, en prenant en compte que ces variables-là, on explique 17% de la variance. De la même façon, dans l'explication de la réussite. Là, évidemment, les variables d'entrée, notamment le parcours antérieur en termes de niveau d'études antérieures, expliquent évidemment pas mal de choses sur la réussite. On est déjà tout de suite à 21%. Mais quand on ajoute les dimensions psychosociales, on ajoute encore une explication supplémentaire à cette réussite. Alors, je vais vous illustrer ça à travers une recherche qu'on a menée à Louvain-la-Neuve avec Julia Schmitz, qui est une doctorante qui a terminé son doctorat avec moi en 2009 et qui a essayé justement de voir si le fait de prendre les variables du modèle de Tinto d'une part et de prendre en plus des variables de type motivationnel, est-ce que ça permettait d'expliquer la persévérance et la réussite d'étudiants de première année à l'université. Et donc c'est une enquête qui s'est focalisée là sur l'ensemble des étudiants de bac 1, donc chez nous, de licence 1 chez vous, qui sont inscrits pour la première fois à l'université au sortir des études secondaires dans l'ensemble des disciplines. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir vraiment la question du démarrage, vraiment d'être intéressé sur qu'est-ce qui fait que les étudiants vont effectivement s'engager et avoir l'intention de persévérer jusqu'au bout de leur première année. Et pour cela, on a fait avec ces étudiants deux collectes de données. Lors de la première semaine, quand ils arrivent à l'université, et puis 8 à 9 semaines plus tard, en novembre, comment les choses se passent pour eux. Et on l'a fait volontairement avant qu'ils n'aient les premiers feedbacks relatifs à des évaluations qu'ils auraient pu avoir, pour voir justement le poids de cette dimension de l'intégration sociale et académique. Alors, le type de variable qui a été prise, elles sont maintenant, vous comprenez un petit peu la logique, on a pris à la fois des variables d'entrée, ce avec quoi ils arrivent. On a pris en compte aussi leur perception des méthodes pédagogiques, des dispositifs pédagogiques, des dispositifs d'évaluation, du soutien qu'ils perçoivent de l'enseignant et des pairs. Ça, c'est pour finalement travailler sur la question de l'intégration dans les systèmes académiques et sociaux. Les variables motivationnelles et d'intégration, l'intégration académique et sociale, mais aussi les questions de valeur, de sens et de sentiment d'efficacité personnelle. Et on l'a mesuré à travers des différentes variables d'engagement. Et ici, les résultats que je vais vous présenter sont essentiellement sur leur intention par la suite de persévérer, donc à l'issue après 8 ou 9 semaines de cours. Et donc ici, dans le modèle qui est présenté ici, et vous allez en voir deux qui vont se suivre, ce qu'on a fait, c'est de prendre à partir de la même base de données, uniquement de prendre en compte les variables du modèle de Tinto et de voir déjà si le modèle de Tinto, en intégrant la dimension de l'engagement vis-à-vis des buts, vis-à-vis de l'institution, et la question de l'intégration sociale et académique, est-ce que ça explique une partie de l'intention de persévérer en novembre ? Parce que cette intention de persévérer, on pense qu'elle est un prédicteur intéressant et important aussi de la persévérance effective, voire du fait simplement de se présenter aux examens de la session de janvier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est entouré en rouge, ce sont les variables qui ont été mesurées au temps 2, c'est-à-dire au moment du mois de novembre, et on a les variables d'entrée. Alors, ce modèle-là, en fait, quand on analyse les différentes relations entre les variables, met en évidence qu'il y a effectivement une importance de l'intégration académique et sociale pour expliquer l'intention de persévérer et que ça passe aussi par un plus grand engagement institutionnel ou un engagement vis-à-vis de ses buts. Alors, pour voir cet élément-là, je suis un petit peu... Attendez, parce qu'il me semble qu'il manque... Il y a une dia qui a sauté. Non, voilà, c'est celle-ci. Le deuxième modèle, on a pris les mêmes variables, mais on a ajouté une dimension motivationnelle, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Et on a essayé de voir si on pouvait plus expliquer l'intention de persévérance que uniquement avec les variables Tinto. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit en fait dans le schéma qui est présenté ici, que quand je pointe les éléments qui sont entourés en rouge, ça montre simplement que le sentiment d'efficacité personnelle à l'entrée vient influencer l'engagement que j'ai vis-à-vis de mes buts, c'est le premier encadré rouge, mais que ce sentiment d'efficacité à l'entrée continue à permettre, va en fait aussi avoir une influence sur la perception d'intégration académique et sociale que je peux avoir, bien sûr va aussi avoir une influence sur le sentiment d'efficacité personnelle au temps 2, et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un complément d'information pour comprendre pourquoi les gens vont avoir l'intention de persévérer ou pas. Alors, toujours dans le cadre du modèle de Tinto, nous avons alors pris en compte également, à travers une autre étude, les mêmes variables, mais en intégrant la perception des pratiques éducatives. Et cette perception des pratiques éducatives, nous l'avons mesurée à travers la perception que les étudiants avaient du climat de classe, entre guillemets, en se demandant si le climat était davantage compétitif ou coopératif d'une part, et de la perception du soutien de leurs pairs, donc des autres étudiants de la classe. Et ces éléments-là qui sont entourés en vert sont particulièrement intéressants à pointer, c'est qu'en fait, le soutien social des collègues de classe a une influence importante sur le sentiment d'intégration sociale à l'université. Mais de même, ce qui est assez intéressant, c'est que la perception, si on a l'impression qu'on est dans un environnement compétitif, là, ça vient quelque part diminuer ce sentiment d'intégration sociale. Et ça a également un effet négatif sur l'ajustement émotionnel qu'on peut avoir au niveau de son environnement universitaire. Et ce qui est aussi à pointer, c'est que ce sentiment d'être dans un climat compétitif vient aussi avoir un effet direct sur et négatif sur l'intention de persévérer. Alors, je vais, parce que je vois que le temps passe, il me reste 9 minutes si je compte bien dans mon décompte, je vais pointer maintenant quelques zones d'ombre ou quelques points encore à explorer à partir de ce panorama que j'ai pu vous faire des travaux sur la persévérance et les réussites, et qui est évidemment un panorama qui est partiel et partial sans doute, puisque c'est les choix évidemment que j'ai pu faire ici. Alors, je voudrais dire que si on regarde ces travaux et par rapport aux travaux aussi qu'on a menés à Louvain-la-Neuve, je pense que ce qui est important de continuer à travailler, c'est d'analyser les effets modérateurs des variables d'entrée. En quoi le fait, par exemple, d'être une fille ou d'un garçon, c'est des éléments qu'on a pointés hier, en quoi ça vient colorer de manière différente les relations entre les différentes variables. Non pas de s'intéresser à des effets directs du genre sur la réussite, mais voir comment le processus qui amène à la réussite est-il exactement le même chez les filles que chez les garçons et quel est le poids des différentes variables, ce qui est évidemment, à mon avis, beaucoup plus intéressant que d'analyser uniquement des relations en termes de facteurs isolés. Une autre piste, à mon avis, qui est à continuer à creuser également, c'est quand on prend en compte les variables d'entrée des étudiants, en fait, par des approches qui sont centrées sur les personnes qui permettent de retirer des profils d'étudiants, on peut aussi voir que, suivant la combinaison des facteurs d'entrée, on peut en fait dégager des profils d'étudiants différents. Des gens qui vont, s'ils ont un sentiment d'efficacité faible, mais qu'ils viennent d'un milieu socio-économique élevé et qu'ils ont un parcours antérieur, par exemple, ils n'ont pas du tout le même profil d'entrée que quelqu'un qui a un sentiment d'efficacité faible, d'un niveau socio-économique bas et qui a un parcours, par exemple, antérieur assez faible. Les effets des différentes variables qu'on a pointées ici ne vont pas s'exprimer de la même façon, et c'est justement assez intéressant d'analyser ça pour voir comment est-ce qu'on peut alors mettre en place des dispositifs de soutien qui ciblent des étudiants à profil particulier, sans évidemment mettre des catégories et d'avoir évidemment des idées préconçues sur le fait que ceux-là, il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent, puisqu'on voit à travers ces modèles-là que des étudiants, même s'ils ont en fait quelque part un bagage d'entrée qui est relativement a priori défavorable, en fait il y a toujours des étudiants qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas. Mais donc qu'est-ce qui fait que certains vont s'en sortir et quelles sont les différentes dimensions? Un autre aspect à continuer... Un autre aspect à continuer à explorer, c'est le poids relatif des différentes variables et les effets de médiation qu'on peut voir, puisqu'on a vu que, par exemple, l'intégration sociale, elle est une des dimensions qui médie la relation entre l'interaction entre les pairs et son intention de persévérer. Quels sont les autres effets de médiation qu'on peut observer pour justement étudier cette complexité? Il y a aussi, à travers les modèles que j'ai présentés, toute une série d'autres variables qui n'ont pas été prises en compte et qui donnent des résultats quand même aussi intéressants. C'est dans le bagage d'entrée, c'est le projet personnel des étudiants, c'est l'engagement que les étudiants ont au départ par rapport à leur but de formation et qui porte là, qui renvoie évidemment à des dimensions d'orientation et de choix d'études. Mais je pense qu'on aura une présentation, je suis sûre qu'on aura une présentation juste après, et donc je ne vais pas m'attarder ici. La question évidemment des dispositifs pédagogiques effectivement mis en place, on a eu une présentation hier, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à continuer à prendre en compte. Et une autre dimension qui est en train que l'on explore également à travers un travail de doctorat en cours, c'est l'importance des normes sociales perçues. Dans la question de la persévérance et de la réussite, qu'est-ce qu'on fait face à des difficultés? Est-ce qu'on a tendance à persévérer quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'on se dit c'est pas si important que ça, c'est trop dur, j'arrête ou j'abandonne? Et le travail qui est mis en place là, c'est de s'interroger en quoi les référents qui sont importants pour moi, c'est-à-dire ma famille, mes amis, les pairs, dans quelle mesure est-ce que je sens que pour eux, face à une difficulté, ils pensent qu'il serait important que je persévère ou au contraire que j'abandonne. Donc, dans quelle mesure les normes sociales, quelque part injonctives que je perçois, il faut persévérer quoi qu'il arrive, si dans ma famille on a fait passer ce message-là, en quoi est-ce que ça détermine mon intention de persévérer et mes comportements pour effectivement faire face à des difficultés? Si très vite, les parents, la famille, les proches disent « écoute, c'est bien trop dur, ça ne sert à rien de poursuivre », dans quelle mesure cet apport des normes sociales vient apporter quelque chose en plus dans la compréhension de la persévérance? Et puis, je pense qu'il est aussi important d'intégrer des approches plus qualitatives à côté des études quantitatives, mais des approches qualitatives qui permettent aussi d'étudier le parcours et le processus qui mène à la persévérance ou à la réussite. Et je vais vous donner simplement un exemple d'une recherche qui a été menée par un des doctorants de chez nous, Michael de Clercq, et qui a interrogé ici une vingtaine d'étudiants d'un programme particulier, un programme de première année en sciences, et qui a interrogé ces étudiants à la fin de l'année académique, donc en fait au début de l'année suivante, en leur demandant quelque part de relire leur parcours sur l'année et des difficultés qu'ils ont pu rencontrer pendant leur année. Et à travers ce schéma, c'est une façon un petit peu de présenter qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les différents moments clés dans l'année, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments on persévère, on continue, on avance, et qu'on a un sursaut pour s'en sortir, ou qu'au contraire, on chute et on va vers l'abandon. Et il a mis en évidence à travers une approche intéressante, mais que la question évidemment du départ est un élément particulièrement important. D'avoir un mauvais départ peut aussi faire chuter pas mal les choses et peut amener certaines personnes à abandonner. Pour d'autres, c'est ils font face au premier quadrimestre, ils suivent les cours, ils travaillent beaucoup parce que c'est un programme qui est très exigeant en termes de quantité de travail. Mais à un moment, ils ont tellement travaillé qu'ils sont vraiment dans un phénomène d'épuisement et qu'il leur faut un temps, même avant les examens, ils vont décrocher au moment où ils devraient encore donner le surplus pour s'en sortir et puis ils vont remonter la pente progressivement. D'autres mettent en évidence qu'ils ont travaillé énormément sur leur quadrimestre et puis, ayant reçu leurs examens, le résultat aux examens, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout au niveau qui est attendu et ils ont l'impression qu'il y a tellement de déficits accumulés qu'ils ne vont pas s'en sortir et donc c'est quelque part la démotivation après la session d'examen. Ou encore, pour certains, les résultats aux examens qui peuvent être relativement bons ou mauvais, c'est pas nécessairement, ça ne va pas toujours dans le même sens, peuvent être aussi fonctionner comme un déclic et faire en sorte qu'alors ils disent « Ok, maintenant, c'est maintenant ou jamais, sinon non, je ne vais pas m'en sortir. » Et puis, qui peuvent aussi ramener les gens. C'est quelques illustrations d'études de cas qui ont été faites, mais qui montrent l'intérêt aussi d'étudier le processus de persévérance et de réussite sur la longueur et sur l'ensemble d'une année. Dans les zones d'ombre encore à explorer, je pense que Marc Romainville y a fait allusion hier, ce n'est pas simplement la question de la première année, la question de la persévérance, mais c'est intéressant à aller aussi voir ce qui se passe au-delà, à la fin du parcours, que ce soit la fin du parcours de master, hein, le dépôt du mémoire, ou que ce soit aussi dans le cadre de qu'est-ce qui se fait au niveau du doctorat, où on est là avec un public évidemment tout à fait particulier, et où c'est intéressant aussi de voir comment les processus de persévérance et d'abandon se jouent dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat. Et on a pour l'instant un travail, une étude qui est en cours avec des collègues de l'ULB, donc de l'Université libre de Bruxelles et Benoît Galland et moi, qui étudient en fait pendant 2 ans le suivi en fait, de l'ensemble de la cohorte des doctorants des 2 universités pour voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur parcours ou est-ce qu'ils vont au contraire abandonner? Puisqu'on sait quand même que l'abandon au doctorat est une préoccupation importante puisque, suivant les statistiques, il y a parfois 1 étudiant sur 2 qui ne va pas aller jusqu'au bout de son parcours. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui joue. Est-ce que c'est l'accompagnement du promoteur ou du directeur de thèse? Est-ce que c'est l'environnement de l'école doctorale? Est-ce que c'est des questions familiales? Est-ce que c'est des questions professionnelles? Tous ces éléments-là sont étudiés à travers ce type d'études. Et je pense nous aurons une présentation cet après-midi aussi de Laetitia Gérard sur cette question-là. Enfin, les questions qui restent également, c'est qu'est-ce qui marche pour soutenir la réussite? Il y a trop peu de recherches sur l'efficacité des dispositifs d'aide, même si, donc on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de services qui sont proposés aux étudiants, mais qui sont malheureusement peu différenciés, qui sont souvent proposés à tous les publics sans tenir compte de leurs caractéristiques. On n'a pas nécessairement un fléchage clair des objectifs de chacun des dispositifs et on fonctionne souvent dans les institutions un peu par essai et par erreur. Si les étudiants viennent, on continue. S'ils ne viennent pas, on arrête. Et on se pose souvent la question, mais pourquoi ce sont les étudiants qui en ont le moins besoin, qui y viennent le plus, ou on peut le poser dans l'autre sens, hein, ceux qui en ont le plus besoin, pourquoi est-ce qu'ils y viennent le moins? Et donc là, il y a toute une série de travaux qui existent et je pense que je ne vais pas m'attarder puisque Cathy Perret va faire une intervention qui va suivre celle-ci. Mais je voulais juste pointer une méta-analyse de nouveau qui a été faite par Robbins en 2009 et qui montre l'intérêt de questionner en fait les dispositifs d'aide à la réussite, pas simplement en termes de leur effet direct sur la persévérance et la réussite, avoir une flèche directe vers la persévérance et la réussite, mais aussi de s'intéresser en quoi ces dispositifs, en fait, permettent de donner une perception plus positive des variables émotionnelles, motivationnelles et sociales, et en fait, dont certains dispositifs vont plutôt jouer sur telle dimension plutôt que telle autre. Alors, comme il est maintenant pratiquement temps de conclure, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude, et je vais passer, voilà, et je vais terminé par les quelques dia pour dire, ben, au vu de l'ensemble de ces études, qu'est-ce qui est vraiment, je pense, en termes de pistes de recherche pour les recherches à venir? Je ne vais pas cibler des pistes de recherche, puisque j'ai déjà mis à travers les ondes d'ombre quelques pistes possibles, mais dire en tout cas, me semble-t-il, l'intérêt pour mener ces recherches, d'avoir vraiment une perspective qui soit contextualisée, qui tienne compte des différences entre programmes, facultés, disciplines, qui puisse aussi, si on met en place des dispositifs pédagogiques appropriés ou ad hoc par rapport à certains étudiants, qui en évalue l'efficacité pour l'ajuster, qui soit aussi des approches qui ne soient pas sur des événements isolés, qui n'étudient pas un effet direct sur la persévérance mais qui, ou la réussite, mais qui intègrent différents facteurs et qui soient évidemment fondés théoriquement et qui s'intéressent à ces questions-là en étudiant au niveau méthodologique à la fois les effets de médiation et de modération et en combinant des approches quantitatives et qualitatives. Et je terminerai en disant qu'il est, et Marc Romainville a démarré là-dessus, en disant qu'il était vraiment important de clarifier conceptuellement ce qu'on entend par persévérance et réussite, parce que suivant la manière dont on opérationnalise ou on conceptualise ces concepts, ce ne sont pas nécessairement les mêmes variables qui vont intervenir. Et pour ça, je crois qu'il est vraiment important d'avoir des cadres théoriques qui permettent de définir à la fois les concepts et les mesures sur lesquelles on va travailler. Voilà, et puis vous trouverez à l'issue de ma présentation les différentes sources qui ont été citées, donc ça je ne vous les lis pas ici, mais voilà, je termine.